L'évangile de ce matin est tiré du livre de Luc, au chapitre 22, versets 14 à 34, dans la nouvelle édition de Genève. Luc, au chapitre 22, versets 14 à 34. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns les autres: qui était celui d'entre eux qui ferait cela? Il se leva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit: les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit point de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit: Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître.
Je suis content ce matin de voir en arrière de moi une croix. Il y a 48 ans, quand je suis arrivé au Québec pour l'Évangile, il était défendu de mettre des croix dans nos églises. L'une des grandes questions dans l'histoire de nos églises, c'est pourquoi la croix a été adoptée comme symbole pour les chrétiennes. On peut voyager à travers le Québec et visiter les villages, les villes. Il y a toujours des croix quelque part. Et pourtant, ce symbole, c'est un symbole de souffrance. Souffrance atroce, un symbole de honte, d'ignomie. Vous savez que, moins dans les provinces, mais certainement dans la ville de Rome, il était défendu aux femmes et aux enfants de regarder quelqu'un sur la croix. C'était trop terrible. Les pires criminels torturés pendant des jours. Et voilà en prendre ce symbole de croix comme symbole du christianisme. Puis pourquoi suivre ce leader manqué, ce Jésus qui a manqué son coup? Les fondateurs des grandes religions, généralement, ils sont morts en âge avancé, puis après une vie manquée de succès. On pense à Moïse, un des grands fondateurs de le judaïsme. Moïse qui est mort à l'âge de 120 ans. Je ne suis pas certain que quelqu'un ici va se rendre jusqu'à 120 ans. Il est mort à la frontière de la terre promise après avoir conduit son peuple à partir de l'Égypte dans l'esclavage et les amener à la frontière. Succès. Bouddha est mort. Le Bouddha est mort à 80 ans. Il a atteint, apparemment, l'ultime vérité. Mohammed est mort à 63 ans. Après avoir uni toute l'Arabie, puis on vit dans des jours où on connaît au moins, d'un certain point de vue, le succès de la religion qu'il a fondée. Puis Jésus, lui, est mort à l'âge de 33 ans, rejeté, un Messie manqué. C'est John Stott qui pose cette question-là, puis il offre une réponse. John Stott nous dit qu'il n'y a qu'une seule explication possible pour le fait que les chrétiennes ont maintenu la croix comme symbole, malgré le ridicule, que la centralité de la croix a pris origine dans la pensée du Christ lui-même. Voilà. Et le passage que nous avons lu tantôt, je pense, nous démontre clairement que la croix était au centre de la pensée du Christ. J'ai trois points ce matin. La nuit avant de mourir, Jésus a expliqué le sens de sa mort dans la chambre haute avec ses disciples. Trois choses qu'il nous enseigne. D'abord, c'est le nouveau centre de l'histoire. La croix, c'est le centre de l'histoire humaine. Deuxièmement, c'est la fondation d'une nouvelle communauté. Et troisièmement, c'est la solution finale pour le péché. Voilà le sens de la mort de Jésus, voilà le sens de la croix. D'abord, c'est le nouveau centre de l'histoire. Jésus dit, « J'ai désiré vivement manger ce repas avec vous. » Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a institué la Sainte Cène, la table du Seigneur, comme nous allons le vivre ensemble tantôt. Il l'a fait pendant la Pâque. Et la Pâque des Juifs, qui était célébrée une fois par année, rappelait aux Juifs que l'Exode était le point tournant dans leur histoire. Je ne sais pas si on peut, dans notre imagination, nous mettre dans la salle de dîner d'une famille juive le soir de Pâque. Tous ici ensemble, le plus âgé, le chef de famille était l'hôte. Puis l'une des coutumes, c'est que le plus jeune des enfants, qui pouvait parler un peu, à un moment donné, on lui faisait signe, puis il fallait qu'il pose une question. L'enfant disait, « C'est pourquoi que cette nuit est différente de toutes les autres nuits? Qu'est-ce qu'il y a de spécial cette nuit-là? » Et c'était le signal pour que l'hôte explique. L'hôte expliquait que nos ancêtres furent esclaves. Ils mangeaient le pain de l'affliction. Puis Dieu a envoyé l'ange de la mort. Puis on a tué des agneaux, puis on a mis le sang de l'agneau sur le linteau de nos portes. Puis l'ange de la mort a passé par-dessus nous qui avons mis le sang sur nos portes. Puis il a tué le premier-né de toutes les autres familles, les Juifs, les Égyptiennes. Puis ainsi nous avons été libérés de l'esclavage. Oh, cette nuit est différente de toutes les autres nuits, disait cette hôte de la famille, en réponse à cette question. C'est intéressant ici que si la Pâque juive regardait en arrière, Jésus fait quelque chose de différent ici. Il regarde en avant, parce qu'au verset 16, il dit, « Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Jésus fait un nouveau point tournant ici. Il regarde en avant. Puis Jésus leur dit, oui, avant ce soir, lors de la Pâque, vous pensez à la peine de l'affliction qu'ont mangé vos pères en Égypte. Mais là, maintenant, c'est la peine de mon affliction. Il dit, mon corps est brisé afin que vous ayez la paix, la vie. Il lui explique que notre peuple a mangé le soir, avant la sortie d'Égypte, avant l'Exode, ils ont mangé un repas de le soir, puis voilà 1450 ans, on les a libérés d'un esclavage économique et autre. Mais cette nuit, nous mangeons un repas, et Dieu va vous libérer du péché et de la mort même. Quelle différence qu'elle regarde en avant. Ah oui, dit Jésus, cette nuit est vraiment différente de toutes les autres nuits. Puis au milieu de la fête juive la plus importante dans le calendrier des Juifs, Jésus dit, « Cette nuit, c'est vraiment à propos de moi. Ma mort, cette nuit, est l'aboutissement de tous les sacrifices dans l'Ancien Testament. Les sacrifices dans ta religion aux Juifs, ces sacrifices-là ne faisaient que pointer vers moi. » c'est le nouveau centre de l'histoire. Deuxièmement, j'aimerais vous suggérer que lors de l'institution de la table du Seigneur ici, le Saint-Saint, dans la chambre haute, Jésus pose la fondation d'une nouvelle communauté. Cette discussion entre les disciples, vous l'avez écoutée tantôt, qui sera le plus grand parmi nous, pour déterminer qui est le plus grand. Et j'aimerais vous suggérer que la croix ne change pas seulement notre identité comme individu, mais si on comprend bien la croix, ça nous place dans une nouvelle communauté. C'était très important pour les Juifs de célébrer la Pâque en famille. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé cela. Ces 12 disciples qui étaient avec Jésus avaient chacune des familles. Puis, au lieu de fêter la Pâque avec leur famille, comme c'était très important dans leur culture, voici, ils se sont isolés de leur famille puis sont venus ensemble pour célébrer la Pâque avec Jésus. Ils sont dans une nouvelle famille maintenant, dans une autre communauté. Chers amis, ça me dérange de plus en plus de voir au Québec des personnes qui se disent chrétiennes et qui sont isolées d'une église locale quelconque. La vie chrétienne ne se vit pas toute seule en isolation. Et des fois, l'église n'est pas parfaite. Des fois, même, c'est difficile. Des fois, ça nous frappe et ça nous dérange. Mais la croix, c'est le commencement d'une nouvelle communauté. Et dans cette communauté, c'est radicalement différent. Vous avez vu cette dispute des disciples qui voulaient savoir qui était le plus grand, puis c'est pour la première fois. Déjà, la mère de Jean puis de Jacques est allée voir Jésus pour dire que j'aimerais que mes fils soient ici, un de chaque côté de vous, dans votre royaume. Un peu une maman ambitieuse pour ses parents, pour ses enfants. On comprend cela. Et dans le monde gréco-romain, ça marchait avec un système de patronage. Ceux qui étaient haut placés donnaient des avantages aux personnes inférieures, puis recevaient en retour leur loyauté. Puis notre société fonctionne un peu comme cela. Mais la croix change de tout cela. Vous savez que je suis venu au Québec pour l'Évangile. Des fois, le soutien financier n'est pas été là, puis j'ai travaillé dans l'industrie. Et j'ai travaillé dans des entreprises où je voyais des gens qui se mangeaient pour avoir le pouvoir, qui se mangeaient pour avoir l'autorité puis la meilleure position. J'ai été longtemps commissaire d'école, plus de 25 ans. Puis j'ai vu des personnes qui ont été élues pour le bien des élèves dans leur classe se battre pour avoir des positions et pour faire engager leurs enfants puis leurs beaux-frères par la commission scolaire. Puis toutes sortes de choses qui montraient que leur ambition n'était pas le bien des enfants, mais leurs propres ambitions. Puis je dois vous dire que dans les églises, des fois, j'ai vu des personnes avec des ambitions, prêts à déplacer les autres. Mais ce qui me dessus le plus, je pense, c'est de moment donné le voir dans mon propre cœur. Chers amis, dans cette nouvelle famille, on ne cherche plus la plus grande position et la plus grande renommée. On n'écrase pas les autres. On ne prend pas les autres comme une échelle pour monter par-dessus pour avoir une meilleure position. Jésus, qui est le chef de cette nouvelle famille, cette communauté, ce soir-là, il a débuté la soirée en lavant les pieds de ses disciples. Puis il n'a pas écrasé les autres pour avoir la meilleure place. Jésus est humble et doux, vraiment. Puis je me pose la question, comme chrétienne, peut-être comme chrétienne engagée dans le service du Seigneur, est-ce que c'est vraiment ce que je suis? Est-ce que c'est ça que vous êtes? Humble et doux. Est-ce que c'est ça que nous sommes? Chers amis, mon ami Yannick, votre pasteur, je me permets de vous dire qu'il est obsédé par quelque chose. Il est obsédé de mettre la croix au centre de son christianisme, au centre de la vie chrétienne. Et voilà, je pense, deux points. Parce que ça, c'est beau. Puis des fois, on sait déjà, si on réunit ensemble, on a discuté, qu'est-ce que ça veut dire de mettre la croix au centre de l'Évangile et tout cela. J'aimerais vous suggérer que c'est bien pratique tout cela parfois. Ce n'est pas juste la théorie. Puis nous avons ici deux points, je crois, dans lesquels nous pouvons travailler nos vies pour mettre la croix au centre de notre existence. D'abord, d'être actif, engagé dans l'Église locale, dans cette communauté que Jésus a fondée lors de cette parc dans la chambre haute, que l'Église locale soit importante pour moi. Et deuxièmement, que dans ma vie, que ce soit les affaires, l'école, famille, vie d'Église, toutes les autres choses qui peuvent exister, que cette humilité et douceur qui a marqué Jésus, cette refus... Hier soir, là, une Canadienne a joué hier après-midi. Au moins, ils ont gagné. Là. Écoute, il faudrait qu'ils jouent tous les après-midi, je pense. J'ai lu ça dans le Journal de Montréal ce matin. Là. Alors, hier soir, il n'y avait pas de hockey. Samedi soir, pas de hockey. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai regardé les débats des partis républicains aux États-Unis. Je ne veux pas parler de politique, puis je suis quand même, j'ai certaines idées sur la politique. Mais j'ai écouté ces politiciens-là, puis je me suis dit, waouh! Quel orgueil. Oh, qu'on se prend donc pour d'autres. Je suppose que c'est nécessaire pour quelqu'un qui veut être président de ce grand pays, je ne sais pas. Puis je ne veux pas critiquer ni faire de remarques sur l'une ou l'autre. Mais que le Seigneur nous aide pour ne pas que ce genre d'attitude-là se trouve dans nous, dans notre service pour le Seigneur. Troisièmement, la croix ici est présenté comme la solution finale pour le péché. Si on essaie de comprendre la Pâque chez les Juifs, chaque famille en Égypte a été assujettie à la justice. L'ange de la mort allait passer cette nuit et prendre la vie de chaque premier-né comme signe de jugement de Dieu sur tout le pays. Mais vous savez que les familles juives aussi, la justice de Dieu n'était pas basée sur la famille ou sur la race ou sur la religion. Même les familles juives, l'ange de la mort devait passer par-dessus chaque famille. Puis le seul moyen de survivre était de tuer un petit agneau et mettre le sang sur la porte. Tuer un agneau. Vous savez que je ne suis pas un chasseur, mais j'ai travaillé sur des fermes. J'ai tué des vaches, j'ai tué des porcs. Je n'ai pas aimé cela. Mais l'idée de tuer un agneau, je ne sais pas si je serais capable. C'est différent un peu. Hein? J'ai un ami qui était boucher et il me dit, en dernier, j'étais rendu que tuer un porc, ça me faisait plaisir, je les haïssais. Mais tuer un agneau, c'est difficile, difficile. Avez-vous remarqué qu'il manque quelque chose dans les récits de cette sainte scène dans les trois évangiles? Remarquable, dans les trois évangiles, ça la manque. Il y a le vin, la coupe, il y a le pain qui est distribué, mais où est le plat principal? Où est la viande? Si on comprend la Pâque juive, il fallait tuer l'agneau, puis il fallait qu'on soit par groupe de famille, juste assez pour manger tout l'agneau. Puis, il ne fallait pas qu'il en reste, il fallait tout le manger. Et manger l'agneau, c'était très important dans la Pâque juive. Puis dans les récits de la chambre haute, on ne parle jamais du fait qu'on a mangé l'agneau. Pourtant, c'était important. Il n'y avait pas d'agneau sur la table, dit Tim Keller, dit comme cela. Il n'y a pas d'agneau sur la table parce que l'agneau de Dieu était assis à la table. Cette grande vérité de la substitution. Oh, ça le symbolise pour nous cette doctrine de substitution. L'agneau mourait à la place de cette famille qui avait péché en Égypte pendant cette période d'esclavage. Et les Juifs étaient sauvés en croyant à la provision de la substitution de l'agneau qui était mort à leur place. Mais je me suis posé la question, pourquoi tuer un petit agneau? Et j'aimerais vous suggérer que plus que je regarde cela, l'innocence et la beauté de l'agneau nous rappellent combien il a fait mal au Père de nous donner son Fils pour mourir à sa place. Comme je vous ai dit, j'ai déjà tué des centaines de poules dans une journée. À un moment donné, on s'est mis 3 ou 4 familles dans l'église, puis on a lavé 700 poules. Puis on les a tuées un samedi. Puis la première fois, là, ça a été difficile. Puis la deuxième fois, puis la troisième fois, l'agneau m'a piqué bien comme... Pas l'agneau, mais la coque m'a piqué bien comme faux, là. Puis après ça, là... Et après l'autre. Mais tuer un agneau, là, ça sert difficile. Puis je pense que ça le symbolise pour nous, le cœur du Père qui a donné l'agneau de Dieu pour mourir pour nous. Comment qu'il a souffert de cela? J'aimerais qu'on pense à la richesse de cette expression. J'ai désiré vivant manger cette Pâque avec vous. C'est drôlement exprimé dans l'original. C'est vivement, j'ai vivement voulu manger ce repas avec vous. C'est un peu un hébraïsme. En hébreu, il y a peu d'adjectifs. Puis, le verbe est répété souvent dans l'hébreu pour mettre l'emphase. Oh, chers amis, on va s'approcher de la table du Seigneur tantôt. Puis j'espère qu'on va réaliser l'amour que le Père avait pour nous en nous donnant son Fils. Puis l'amour de Jésus qui sait que ce repas, c'est le dernier repas qu'il va manger avant d'être crucifié. Puis il dit, j'avais hâte, je voulais vivement manger cette Pâque avec vous. Le mot vivement ici dans l'original, c'est presque angoisse dans son sens. Oh, chers amis, la croix, c'est une démonstration de l'amour de Dieu. Mais pourquoi tuer un petit agneau? J'essaie de parler de l'Évangile des fois à des personnes, puis on va dire souvent, « Mais oui, mais pourquoi Dieu ne pouvait pas simplement pardonner? » C'est un bon Dieu, on le dit au Québec, hein, le bon Dieu. C'est notre expression préférée. Pourquoi que Dieu ne pouvait pas simplement pardonner? Pourquoi qu'il fallait faire tout cela? J'aimerais vous raconter l'histoire d'une de mes amies avec qui j'ai travaillé. On a même fondé une entreprise ensemble il y a bien des années. Puis cette personne-là a délaissé le Seigneur, puis il a eu une vie très désordonnée. Puis la pire chose possible dans sa vie, pour lui en tout cas, est arrivée. C'est qu'une nuit, après avoir passé une soirée dans le bar avec ses amis, il est sorti ivre, il a conduit sur un chemin, puis il a frappé un auto, puis il a tué un père de famille avec des enfants. Il n'a pas tué les enfants, il a tué le père de la famille. Au début, j'avais des doutes, mais je pense que cette personne-là s'est vraiment tournée vers Dieu à ce moment-là, a retourné à sa foi. J'ai passé beaucoup de temps avec lui, j'ai parlé souvent avec lui de ce qui allait arriver. Puis dans mon cœur des cœurs, je me suis dit, ça serait fun si le juge dirait, « Bon, je te pardonne. » Puis après ça, j'ai pensé à ses enfants, cette épouse, la gravité de ce qu'il a fait. Puis il me semble que si je lisais dans le journal qu'un juge a dit à un ivrogne qui a tué quelqu'un avec son auto, « Wow, c'est pas grave. » Je pense que ça m'aura insulté. Et peut-être que vous aussi. Il me semble que cet homme-là, il est arrivé, il a passé quelques années en prison. C'était bon pour lui. Il est sorti, il voit mieux. Il n'a pas touché un verre depuis. Content pour lui. Mais je pense qu'il y a quelque chose en vous qui dit, devant ces circonstances-là, il fallait que le jugement soit fait, n'est-ce pas? Est-ce que vous auriez été content qu'on laisse aller sans rien? C'est important. Mon épouse et moi, on a travaillé beaucoup avec des femmes abusées sexuellement dans leur jeunesse. Des garçons aussi. Puis je vous dis que si quelqu'un venait kidnapper vos enfants chez vous, puis les abuser, puis les tuer, après les avoir torturés, est-ce que vous aimeriez que la justice soit faite? Hein? Moi, je m'offre pour être le juge et le bourreau dans ces circonstances-là. Chers amis, on a cette idée que le bon Dieu peut pardonner, puis on ne réalise pas la gravité de notre péché envers lui. On ne réalise pas la sainteté de Dieu. Si l'amende pour faire des excès de vitesse, disons que vous faites prendre à faire 220 km à l'heure sur l'autoroute, puis l'amende, c'est 1 $. Est-ce que ça vous empêcherait de faire 220 km à l'heure sur l'autoroute? Moi, ce qui m'empêcherait, c'est mon Camry 2007, qui est rendu à 119, pas mal au bout, là. Hein? Mais, chers amis, je pense qu'on réalise que la gravité du péché demande la gravité de la punition. Notre société marche comme ça. Sans ça, ce serait dangereux de conduire sur l'autoroute. Ça l'est déjà, mais c'est encore pire. Chers amis, Dieu doit juger. Et l'histoire de la Pâque, c'est que Dieu a jugé son Fils au lieu de nous juger. Mais il faut s'approprier de ce sacrifice personnellement. Notre Seigneur a utilisé ici un rapport pour symboliser le salut. Vous savez que vous pouvez regarder une belle table pendant des heures, vous pouvez apprécier la fragrance de la nourriture, puis vous pouvez ensuite crever de faim. Hein? Et, chers amis, ce n'est pas assez de comprendre de qu'est-ce que Dieu a fait sur la croix avec Jésus. Jésus a donné sa vie à notre place. Il faut aussi l'accepter pour soi-même. Il faut s'en approprier. En conclusion, pour nous qui sommes croyants, qui avons accepté ce salut offert par Christ, j'aime vous suggérer que ce n'est pas assez de manger une seule fois. Si je vous disais, j'ai mangé un bon steak en avril 2008, puis j'ai rien mangé depuis, mais vous regarderez mon bedaine, vous diriez, pas certaine. Il y a quelques Big Mac. Chers amis, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et j'aimerais vous dire que pour nous qui sommes croyants, il faut continuellement vivre la croix, ma vie d'amour pour le Christ, mon obéissance vers le Christ, ma relation avec la famille de Dieu. C'est important cela. Et si vous êtes ici aujourd'hui et vous dites, bon, je n'ai jamais approprié pour moi-même cette salut offert en Christ. J'aimerais vous poser la question, est-ce que vous avez compris l'amour de Dieu envers toi? Avez-vous compris comment c'est essentiel pour Dieu qui doit juger le mal et le péché? Voulez-vous faire face à Dieu le juste juge et être condamné pour ton péché? Dieu a pourvu son agneau pour toi et c'est aujourd'hui qu'il faut se l'approprier pour vous-même. Pensons au l'errant sous la croix. On l'appelle le bon l'errant. Et quelque chose à vous dire, c'est que les Romains, d'après tout ce que j'ai compris dans l'histoire, les Romains ne crucifiaient pas les voleurs. Cette personne-là n'avait pas juste volé quelque chose, il avait probablement tué la personne qui l'avait volé. C'est la seule raison qui justifie une crucifixion pour lui. C'était une meurtrier sans doute. Et dans cette leçon de ce bon l'errant, on appelle cet l'errant qui a demandé à Jésus, puis Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que vous voyez que Dieu est le Dieu qui pardonne? Oh, je suis content d'avoir un Dieu qui pardonne. Est-ce que vous voyez que l'errant a confessé son péché? Il a dit à son ami, nous, en Amérique, qu'est-ce qui nous arrive? Il savait qu'il était pécheur. Il a confessé. Arrêtez donc de nier que vous êtes pécheur, puis réalisez que vous avez besoin d'un sauveur. Il a confessé qui était Christ. Il a dit, souviens de toi, témoin, lorsque tu seras dans ton royaume. Il reconnaissait que Christ était le roi, qui aura un royaume. Puis, il a placé sa confiance en Christ pour le sauver. Puis moi, je vous invite à faire ça vous-même aujourd'hui, si vous ne connaissez pas Jésus comme sauveur personnel. Venez me voir. Venez voir les responsables de l'Église. Parlez avec celui qui est assis avec vous. Aujourd'hui, il faut s'approprier du sacrifice que Dieu a fait avec Jésus sur la croix. Prions. Nous te bénissons, notre Dieu, pour Jésus. Nous te bénissons pour la croix. Nous te bénissons parce que tu nous as mis dans une communauté magnifique, l'Église locale. Nous te remercions parce que tu nous as donné Jésus comme sauveur personnel. Et merci que tu changes nos vies. Nous avons écouté ta parole, nous demandons maintenant que tu nous aides à la mettre en pratique, Seigneur. Et pour celui qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas encore approprié le sacrifice de Jésus pour lui-même, ah Seigneur, que ce soit aujourd'hui. C'est au nom précieux de Jésus que nous prions. Amen.